Une édition spéciale avec Bruno Duvic. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe Bertrand, bonjour à tous. Édition spéciale en effet de la rédaction de France Inter que vous écoutez. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Au sommaire aujourd'hui, l'attaque près du marché de Noël de Strasbourg. Le terrorisme a de nouveau frappé, dit le procureur de Paris Rémy Hetz, qui donne le tout dernier bilan. 2 morts, une 3e personne en état de mort cérébrale, 12 blessés dont 6 en urgence absolue, le tireur toujours en fuite. Des témoins l'ont entendu crier « Allahu Akbar », dit le procureur. C'est un Strasbourgeois de 29 ans à son casier, 27 condamnations en France, en Allemagne et en Suisse. Strasbourg après cette attaque, ville sous très haute sécurité évidemment, mais les écoles, les collèges, les lycées sont ouverts. Le maire veut que la vie, les spectacles reprennent dès demain. Témoignages d'habitants sur la soirée d'hier, la ville ce matin. Nos envoyés spéciaux, non spécialistes, sont à Strasbourg ou à mes côtés ici en studio. Et nos invités d'ici à 14h, spécialistes de sécurité, le policier Jean-Marc Bailleul, le député européen Arnaud Danjean et le président de la métropole de Strasbourg, Robert Herrmann. Nous n'oublierons pas les autres grands titres de l'actualité. Gros point d'interrogation sur les manifestations des Gilets jaunes après cette attaque de Strasbourg. Une série d'entreprises commence à s'engager à verser la prime de fin d'année promise aux Gilets jaunes par Emmanuel Macron. Le Brexit, Theresa May face à un vote de défiance. Le football, Lyon joue sa qualification en Ligue des Champions. Et puis le prix Louis Deluc attendu dans les minutes à venir. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. C'est une édition spéciale de la rédaction de France Inter.
France Inter. On était en train de manger, on a vu des gens qui parlaient de « il y a des pétards », mais on n'a pas réalisé. Et quand à un moment on s'est levé, qu'on a dit faut qu'on y aille, et que la personne qui s'occupe du restaurant nous a dit les portes sont fermées, vous ne sortez pas, là je dois vous dire que c'était l'affolement parce qu'on s'est senti prisonnière. On a vu, c'était à 50 mètres de là où on était, on a vu les gendarmes, on a vu les ambulances, on a vu les pompiers, on a vu, voilà, ils nous faisaient des signes de s'écarter des vitrines. Et on a pris malheureusement des... Je suis désolée, mais c'est compliqué.
Elle s'appelle Maryse, elle était hier soir dans une pizzeria de la rue des Orfèvres à Strasbourg. C'était autour de 20h, juste avant la fermeture du marché de Noël. Un homme ouvre le feu dans le centre-ville, à plusieurs endroits. Il parvient à s'échapper, il est toujours activement recherché. Il s'agit donc d'un acte de terrorisme, selon le procureur de la République de Paris ce matin, Rémy Hetz. Nous faisons le point sur l'enquête dans un instant. D'abord Strasbourg, au lendemain de cette attaque. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour Bruno.
Mathilde, envoyée spéciale de France Inter, vous êtes à Strasbourg, ville sous très haute sécurité évidemment.
Oui, sécurité, oui, certes ce matin, mais allégée par rapport à ce que vient de nous dire Maryse. Plus discrète bien sûr, on a vu des policiers en civil, mais pas de colonne de CRS comme il y en avait encore cette nuit. Les agents de sécurité fouillent depuis ce midi les ponts d'entrée pour accéder au cœur de ville, même si les chalets du marché de Noël sont fermés. Tout le monde se prête au jeu, mais cette passante n'y croit pas.
De la tristesse pour ceux qui sont morts, bien sûr, mais je pense que c'est illusoire d'imaginer qu'une sécurité est efficace à 100%. Je suis venue en me disant « aujourd'hui, je peux faire mes courses tranquille ».
Elle n'est pas la seule à faire ses courses, mais il y a tout de même pas grand monde dans les rues, Bruno. Malgré quelques touristes, confirmation de Denise devant sa boutique.
Non, il y a moins de monde que d'habitude, hein, ça c'est sûr. Mais les gens ne me semblent pas paniquer, ceux qui passent, ils flânent quand même. Dans le subconscient, on savait que ça allait risquer d'arriver un jour. Hein.
À quelques mètres de la rue des Orfèvres, lieu de la première fusillade, tout a été nettoyé, mais la peine est là et il y a du fatalisme dans la voix émue de Marie-Lise.
C'est horrible ce qui est arrivé. On se demande quand ça s'arrête, quoi. Mais je pense jamais. On se sent mal.
Marie-Lise s'inquiète pour ses enfants et petits-enfants. Beaucoup de parents ont choisi ce matin de ne pas mettre leurs enfants à l'école. Jean-Bernard habite tout près d'un lieu de fusillade. Il n'a pas voulu passer devant ce matin, raconte-t-il, inquiet que le tireur n'ait pas encore été arrêté.
C'est ce qui me fait le plus peur, quoi, parce que bon, j'aurais préféré me lever ce matin et entendre dire qu'il a été descendu et puis voilà, terminé. On n'en parle plus, quoi. Mais alors bon, est-ce qu'il traîne encore dans les parages ou est-ce qu'il est parti en Allemagne ou ailleurs? Ça perturbe un peu quand même, quoi.
Alors on a voulu ce matin justement s'approcher de l'Allemagne pour vérifier une information liée à la traque. Impossible, toutes les voitures sont fouillées à la frontière, occasionnant des kilomètres de bouchons.
Merci Mathilde Dehimy. On vous retrouve dès que nécessaire hein, dans cette édition spéciale de France Inter jusqu'à 14h. N'hésitez pas à nous faire signe s'il se passe quoi que ce soit de neuf à Strasbourg. Venons-en à l'enquête, la traque du tireur, l'enquête, les derniers éléments. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Bruno.
Service police-justice de France Inter. C'est la section antiterroriste du parquet de Paris qui est chargée de l'enquête et le procureur Rémy Hetz vient de donner une série de nouvelles informations. C'était il y a quelques minutes. Qu'est-ce qu'on retient de sa conférence de presse?
Alors peut-être déjà un point sur le bilan parce qu'on a vu qu'il a évolué. On a dit qu'il y avait 3 morts puis 2 morts. Donc on a une explication par la voix de Rémy Hetz. Il y a bien 2 morts et une personne en état de mort cérébrale. Donc il n'est pas encore déclaré décédé, mais on suppose que malheureusement il y aura 3 morts. 12 blessés, dont 6 en urgence absolue. Voilà pour le bilan. Alors on a noté depuis ce matin la prudence des autorités sur les motivations de l'assaillant. Il semble bien qu'on soit en présence d'un attentat. Écoutez donc Rémy Hetz, procureur de Paris, compétent sur tout le territoire pour le terrorisme. Il s'est exprimé, vous l'avez dit, il y a à Strasbourg il y a une demi-heure.
Au regard du lieu ciblé, du mode opératoire employé par l'assaillant, de son profil et des témoignages recueillis auprès de ceux qui l'ont entendu crier « Allah Akbar », la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie des faits d'hier soir. Une enquête en flagrance a été ouverte des chefs d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et d'association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes.
Voilà, on avait entendu la prudence de Laurent Nunez, le secrétaire d'État à la sécurité à l'intérieur ce matin sur France Inter. Il s'agit bien d'une attaque terroriste, dit Rémy Hetz. Qu'est-ce qu'on retient encore de cette conférence de presse, Corinne?
Alors, on reviendra dans un instant avec Sophie Parmentier sur le déroulement précis des faits. L'homme, vous l'avez dit, porteur d'une arme à feu, a tiré à plusieurs reprises dans le centre historique de Strasbourg, près du marché de Noël, sur des passants et des militaires. Information importante, peu avant 20h, il monte dans un taxi et c'est le témoignage de ce chauffeur de taxi qui a permis assez vite finalement d'identifier l'assaillant. Écoutez Rémy Hetz.
Le chauffeur de taxi a précisé l'avoir vu en possession d'une arme de poing et présentant des blessures. L'individu, pour justifier ses blessures, a, devant le chauffeur de taxi, évoqué son passage à l'acte dans le centre de Strasbourg en expliquant avoir tiré sur des militaires et tué 10 personnes. Le témoin, chauffeur de taxi, dit l'avoir entendu proférer des propos justifiant les faits qu'il indiquait avoir commis. L'évocation, devant le chauffeur de taxi, de la découverte d'une grenade chez lui le matin même, permettait aux enquêteurs de faire très rapidement le rapprochement avec une opération réalisée sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Strasbourg au domicile de Shérif C.
Voilà, Shérif C, qui en effet devait être arrêté hier matin dans le cadre d'une enquête ouverte sur un braquage et une tentative d'homicide qui s'est passée l'été dernier en Alsace. Et peut-être que cette perquisition à son domicile, puisqu'il n'était pas présent, c'est peut-être ce qui a déclenché son passage à l'acte. C'est ce qu'on croit comprendre dans ce dialogue qui a eu lieu avec le chauffeur de taxi. Dernière information enfin donnée par le procureur, le suspect, vous l'avez dit, est toujours en fuite. Des investigations sont en cours, des perquisitions et 4 personnes, des proches de l'assaillant, sont actuellement en garde à vue.
Une question sur la traque, sur les motivations, on verra cela avec notre invité dans une seconde, Jean-Marc Bailleul. Et tout de suite avec vous, Sophie Parmentier. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Vous êtes à mes côtés jusqu'à 14h pour cette édition spéciale, les grandes questions qui se posent sur l'enquête de la conférence de presse de Rémy Hetz, le procureur. On retient aussi des éléments de parcours depuis hier, du tueur.
Oui, le procureur de la République de Paris a détaillé ce parcours. Il était un peu moins de 20h, 19h50, à quelques pas du marché de Noël, dans une rue commerçante très fréquentée, rue des Orfèvre, au numéro 10 précisément, quand le tireur apparaît. On le voit armé d'une arme à feu et aussi d'un couteau. Il commence à tirer à ce moment-là sur des passants. Et ce que vient de nous apprendre le procureur, c'est qu'il s'était aussi servi de son arme blanche en cheminant dans d'autres rues, toujours dans ce secteur du marché de Noël, au cœur de Strasbourg, au cœur du quartier historique. En quelques minutes, le tireur tue et blesse grièvement plusieurs passants. 2 morts, donc l'un en état de mort cérébrale, une 12aine de blessés, plusieurs grièvement touchés. La foule, on l'a entendu aussi au début de ce journal, court, panique. Elle croit d'abord à des feux d'artifice, à des pétards, et puis elle comprend la gravité de la situation. Et à ce moment-là, le tireur est rattrapé par une équipe de militaires, une équipe de sentinelles qu'il croise. Les 4 militaires le visent, il le blesse apparemment à un bras. Il n'est pas forcément grièvement blessé. Le tireur réussit à ce moment-là à prendre ce fameux taxi. Il braque le taxi, il prend brièvement le chauffeur de taxi en otage et il lui demande
de se diriger dans un autre quartier, le quartier du Neudorf. Il ne lui donne pas d'adresse précise, mais il se dirige vers l'hôtel de police de Strasbourg. Et ça, le procureur de la République ne l'a pas dit il y a un instant dans sa conférence de presse. Mais selon nos informations, quand il descend du taxi, le tireur, devant le commissariat de police de Strasbourg, il tire une nouvelle fois sur un policier qui est en faction à l'accueil du commissariat. Le policier riposte, mais il rate le tireur. À ce moment-là, le tireur s'enfuit à pied. Il y a des motards de la police, en fait, qui cherchent à le rattraper. Mais c'est à ce moment-là qu'on perd sa trace, à ce moment-là qu'il s'enfuit. Tout ça moins d'une heure après les premiers tirs.
On en vient à la question de la traque après ce récit très complet de Sophie Parmentier. Bonjour Jean-Marc Bayeul.
Bonjour.
Secrétaire général du syndicat majoritaire des cadres de la sécurité intérieure. On répète ce chiffre, monsieur Bayeul, depuis hier, 600 policiers mobilisés dans le cadre de cette traque. Concrètement, que pouvez-vous nous dire? Comment ça se passe, une traque de cette nature?
Une traque, ça va être d'abord de verrouiller le quartier où on pense que l'individu s'est réfugié, pour faire en sorte qu'il n'en sorte pas. C'est de faire en sorte d'aller au plus près de tous ses contacts connus. Et Dieu sait que vu son passif, on a dans son dossier des liens avec sa famille, ses amis, voire ses complices passés. C'est mettre, on les entend, des hélicoptères au-dessus pour voir si on ne repère pas un véhicule. C'est recueillir les renseignements qui peuvent arriver sur le 17. C'est recouper les informations entre les services de renseignement et les services de police judiciaire, en fait. C'est mettre en action toutes les forces qui peuvent amener à pouvoir recueillir des informations pour le localiser et l'interpeller s'il est resté encore sur le territoire national.
Oui, ce dont on n'est pas certain. Oui, parce que quand on parle de 600 forces de l'ordre, évidemment, les 600 ne sont pas à Strasbourg sur le terrain. Il y en a une partie qui sont dans des bureaux à récolter de l'information, à les croiser, à les échanger.
Évidemment, avec les services français et avec les services allemand notamment, puisque on sait qu'il y a un lien de cet individu avec l'Allemagne par ses actes passés. Donc effectivement, la coopération doit fonctionner au maximum pour par des informations, des témoignages, faire en sorte de pouvoir le suivre à la trace.
Vous parlez de l'Allemagne, il pourrait être en Allemagne. La frontière, quel enjeu? C'est facile à passer quand on est un homme comme ça aujourd'hui, une frontière? Comment ça se passe?
La frontière avec l'Allemagne, quand on est à Strasbourg, c'est plus que facile, c'est un pont.
Oui.
Donc il y a plus de douane, comme vous le savez, donc il y a une liberté d'aller et venir. Donc si il n'y a pas de barrages qui sont mis en place spécifiques, effectivement, il est facile de passer en Allemagne. Alors il y a le pont qui dessert Strasbourg, mais il y a aussi d'autres points de passage qui sont très très peu éloignés. Oui. Et on est sur le principe de Schengen avec la liberté de circuler entre les pays ayant ratifié ces accords.
Monsieur Bayeul, question de Corinne Audouin qui est à mes côtés.
Oui, c'est une question qui revient pas mal, y compris chez les auditeurs. On a bien entendu que le procureur donnait le prénom uniquement de l'assaillant. Nous ne donnons pas également son identité. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'avis de recherche public, à votre avis, vous qui connaissez évidemment ce genre de situation?
Parce que les services de police ont sûrement suffisamment d'éléments et pour ne pas être obligé de lancer un avis de recherche national. Donc il ne faut pas non plus brouiller les informations qui pourraient revenir aux services de renseignement à partir du moment où ils ont suffisamment d'éléments en main. Peut-être que ça suivra, mais pour l'instant, le choix qui a été fait me paraît légitime dans la mesure où on a identifié l'individu, qu'on a des services qui le connaissent. La preuve, c'est qu'hier matin, on a un service de gendarmerie qui a voulu aller l'interpeller dans le cadre d'une affaire de droit commun. Donc c'est pas la peine d'affoler finalement les réseaux sociaux par une masse d'informations qui nous reviendrait et qu'on aurait du mal à...
Un trop-plein serait nuisible. Est-ce que l'arrestation avortée d'hier a pu être un élément déclencheur de ces gestes?
C'est pas possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a quelqu'un qui a fait l'objet de plus d'une vingtaine de condamnations, qui a fait plusieurs séjours en prison en France et à l'étranger, qui a sûrement eu vent de cette perquisition à son domicile, d'un radicalisé en sommeil commettant des braquages, et ben il est peut-être passé à autre chose parce que il n'a peut-être pas envie de retourner en prison et que cette radicalisation s'est exprimée par un acte comme on a pu en voir par le passé. C'est pas impossible. Maintenant, il faut pas s'empêcher de faire notre travail parce que on a potentiellement des individus à la double casquette, c'est-à-dire délinquants de droit commun et radicalisés.
Oui.
Il y en a quand même un certain nombre sur le territoire. Et il faut bien qu'on continue de faire le boulot. On va pas les laisser continuer de braquer au prétexte que ils sont susceptibles de passer à l'acte. C'est le problème de tous ces individus.
Oui.
Qui, avec un petit déclencheur, qui peut être un problème personnel, un problème familial, là un problème peut-être de recherche de la police, décide de passer à l'acte.
Monsieur Bailleul, restez avec nous quelques minutes encore. Je voudrais qu'on entende une personne importante à Strasbourg pour nous donner des informations sur ce qui se passe à Strasbourg ce matin. C'est Robert Herrmann, l'adjoint au maire, président de la métropole. Bonjour Monsieur Herrmann.
Bonjour.
Dans quel état d'abord sécuritaire est la ville ce matin? Quels sont les quartiers quadrillés? Est-ce que la sécurité se relâche au fil des heures? Racontez-nous.
Non, pas du tout. Je veux dire, le ministre de l'Intérieur a pourvu un renforcement considérable de forces de police. Je crois qu'ils sont un peu plus de 600 aujourd'hui dans la ville. Je veux dire, la ville, elle est sous le choc, évidemment, et elle est très traumatisée, inquiète, du fait que l'individu n'est, à l'heure où on se parle, pas arrêté ni supprimé. Et par conséquent, je veux dire, il y a une inquiétude qu'on sent palpable dans la ville. Pour autant, je veux dire, il faut continuer à fonctionner, donc les mesures de sécurité sont prises pour que des enfants puissent être accueillis dans les écoles, même si la recommandation était donnée aux parents de les garder dès lors qu'ils le pouvaient, que les commerces ouvrent, même si certains ont décidé de ne pas ouvrir aujourd'hui. Le marché de Noël est fermé, il a été demandé évidemment par arrêter qu'il n'y ait pas de manifestation protestataire aujourd'hui, comme cela a été envisagé par les étudiants.
Il rouvrira demain le marché de Noël, Monsieur Herrmann, c'est le souhait de Roland Ries, le maire.
Il devrait rouvrir demain sans normalement, reste à voir l'évolution maintenant des choses. Évidemment, je veux dire, en fonction de la nature de la menace, je veux dire, toute chose est susceptible d'évoluer, comme vous pouvez l'imaginer.
Quelle force de sécurité dans le quartier du Neudorf, Monsieur Herrmann?
Il y a des forces de sécurité dans l'ensemble des quartiers dans lesquels l'individu soit résidé, soit réside, soit il y a un certain nombre de liens. C'est vrai sur les quartiers du Neudorf, du Neuhof, mais aussi d'autres quartiers de Strasbourg. C'est vrai au centre-ville, évidemment, puisque la crainte dans ces moments, vous le savez, c'est toujours la répétition. Et que par ailleurs, il faut afficher vis-à-vis de la population l'attention que nous lui portons et la sécurité que nous lui devons. Et par conséquent, il y a une action qui est également forte et très pédagogique de ce point de vue.
À propos de sécurité, il y a déjà des premiers témoins qui disent voilà, on n'est pas contrôlé de manière assez stricte dans le centre-ville de Strasbourg. Que répondez-vous?
Oui, j'entends cela. Il y a de cela quelques jours, la critique était inverse. Faut-il vraiment autant de sécurité? Est-il nécessaire que y ait ces fouilles, ces ouvertures de sacs, ces files d'attente à ce que les uns appellent des points de passage et d'autres des checkpoints?
Là, il y a deux armes qui sont passées.
Et oui, bien sûr. Et il y aura toujours, je veux dire, mais derrière cela, il y a les services du renseignement, il y a énormément de travail qui est fait par les services de police. Et je veux dire, nous avons là affaire à quelqu'un d'aguerri, qui disposait déjà d'armement, donc qui n'a pas commis d'erreur en recherchant, en se renseignant pour essayer d'acquérir des armes, qui, je veux dire, était de toute évidence foncièrement décidé. Et on sait qu'en démocratie, j'ai envie de dire, même dans les systèmes totalitaires, on ne sait pas arrêter cela, et que ça participe de l'aléa. Je m'en excuse auprès des victimes et de leurs familles. Mais la sécurité à 100% n'existe pas et on ne peut pas la promettre après un événement comme celui-là, même si l'émotion est extrêmement forte.
Merci beaucoup Robert Herrmann d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Et c'est l'occasion pour moi de dire une première fois que le journal de 13h de France Inter sera à Strasbourg demain. Nous serons en direct entre 13h et 14h dans cette ville meurtrie. Sophie Parmentier, vous êtes toujours à mes côtés et Jean-Marc Bailleul est toujours avec nous. Une question à Jean-Marc Bailleul dans une seconde. Peut-être rappeler le portrait du tireur de Strasbourg, Sophie.
Alors, ce tireur que les enquêteurs ont identifié très tôt hier soir après l'attaque et pour lequel le procureur de la République de Paris, qui s'est dépêché à Strasbourg sur place, a donné simplement le prénom. Son prénom, c'est Chérif C. Ouais. Il est né le 24 février 1989 à Strasbourg. Il est de nationalité française. Il a 29 ans. Il est très connu, a dit le procureur, pour des faits de droit commun. Une soixantaine de faits, selon les policiers que nous avons interrogés, principalement des faits de vol et de violence. Et il a eu 27 condamnations, 27 condamnations inscrites sur son casier judiciaire, la quasi-totalité de ses condamnations en France, mais également en Allemagne. Il a aussi purgé des peines de prison en Allemagne, également condamné en Suisse. Alors en France, sa dernière peine de prison, eh bien en fait, il purgeait deux peines en même temps, c'était entre 2013 et 2015. Il est sorti en septembre 2015 et lors de ce dernier séjour en détention, il est passé par plusieurs prisons, notamment entre 2013 et 2015. Il est, selon nos informations, passé dans les prisons d'Épinal, de Mulhouse ou de Strasbourg. Et lors de ce séjour en détention, eh bien, il a été signalé pour radicalisation. Il y avait beaucoup de prosélytisme religieux et c'est à ce moment-là qu'il a été repéré. C'est à ce moment-là que les informations du renseignement pénitentiaire, vous savez que le renseignement pénitentiaire est très important. Les informations sont remontées au niveau du renseignement national.
Général,
et les policiers, en fait, du renseignement ont commencé à suivre alors cet homme âgé de 29 ans. Laurent Nunez, qui était ce matin l'invité de France Inter dans ce studio, secrétaire d'État à l'intérieur,
bras droit de Christophe Castaner.
Bras droit de Christophe Castaner a bien dit qu'en fait, il était suivi de près. Pour autant, il a bien insisté sur le fait qu'il n'était poursuivi dans aucune affaire de terrorisme, en fait, ce tireur de Strasbourg. Il n'était connu que pour des faits de droit commun à ce stade.
Alors allons-y sur cette question qui revient déjà, par exemple, dans la bouche de Laurent Wauquiez. Jean-Marc Bailleul, vous qui êtes toujours avec nous. Il y a un raté dans la surveillance. Cet homme n'aurait jamais dû passer à l'acte.
Non, il n'y a pas de raté dans la mesure où on a bien vu que pour ces affaires de droit commun, les services judiciaires de la gendarmerie étaient à ses trousses et sont allés à son domicile. Le problème, c'est que les radicalisés, il y en a plusieurs milliers. Et que faire croire aux Français qu'on va pouvoir mettre des policiers à les suivre 24 heures sur 24 au prétexte qu'ils ont une fiche S parce qu'ils se sont radicalisés, je parle que de cela, ça serait à peu près mettre une vingtaine de milliers d'effectifs 24 heures sur 24 pour les suivre. Donc faut être sérieux. C'est-à-dire que là, c'est complètement populiste et démago et que c'est absolument pas réalisable. C'est pas parce que quelqu'un s'est radicalisé ou en tout cas pratique un islam le plus radical qu'on peut mettre sous les verrous ceux qui l'ont fait. La loi ne le permet pas. C'est toute la difficulté du franchissement de la ligne blanche et de signaux faibles qui nous reviennent pour justement cibler les individus les plus à risque. À partir du moment où cet individu, lui, n'a pas émis des signaux faibles d'un passage à l'acte terroriste, qu'il était connu pour des actes de délinquance de droit commun, des braquages en l'occurrence, il n'y avait pas de raison de mettre un dispositif plus particulier sur lui qu'on ne peut mettre sur les autres. C'est une question de sélectivité et on prend le haut du spectre avec ceux qui émettent le plus de signaux.
Question de Sophie Parmentier, Monsieur Bailleul.
Jean-Marc Bailleul, vous dites qu'il faudrait 20 000 policiers pour suivre ces hommes radicalisés. Il y a combien de policiers du renseignement aujourd'hui en France?
Il y en a à peu près plus de 3 000, tout personnel confondu, donc policiers contractuels et administratifs à la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Il y en a aux environs de 2000 à peu près au niveau du service du renseignement territorial. Donc on a compris, sachant que c'est pas leur seule mission de regarder le terrorisme. Il y a aussi toutes les missions de renseignement traditionnelles. On les a mis à contribution ces derniers temps sur les ultra-gauches, les ultra-droites, tout ce qui est la délinquance économique. Donc on peut pas mettre 30 000 policiers en permanence sur ces individus à risque. C'est une réalité.
Jean-Marc Bailleul, il y a une autre question qui se pose d'ores et déjà, c'est quelles conséquences sur les mouvements des Gilets jaunes? Je vais vous poser la question. D'abord, je voudrais qu'on entende Laurent Nunez, donc secrétaire d'État à l'Intérieur, qui était ce matin l'invité de France Inter. Est-ce que les Gilets jaunes peuvent ou vont maintenir leur manifestation après cette attaque terroriste de Strasbourg? Écoutez ce que disait Laurent Nunez à Nicolas Demorand et Léa Salamé ce matin.
Nous demandons aux Gilets jaunes de manifester en déclarant leur manifestation, et ça depuis le début du mouvement, puisqu'on a vu qu'il y a eu de nombreux débordements qui sont liés à cette absence de déclaration, qui nous empêche d'encadrer correctement ces manifestations. Et d'une manière générale, nous demandons aux Gilets jaunes de s'inscrire dans la phase de concertation et de dialogue qui s'est ouverte, et notamment après les annonces du président de la République.
Mais là, le contexte a substantiellement changé, non ?
Le contexte a substantiellement changé, bien évidemment, mais cette menace, elle existait déjà. Nous l'avions rappelé à de nombreuses reprises. Je rappelle quand même que nous interpellons le 13 novembre, et c'est la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire qui réalise cette opération. Nous interpellons un groupe d'individus qui projetait de passer à l'action le 17 novembre, profitant de la journée d'action des Gilets jaunes, sachant que les forces de l'ordre allaient être mobilisées par cette journée. Ce groupe voulait frapper ce jour-là. Donc la menace, elle a toujours existé et elle est toujours là.
Même le porte-parole du Rassemblement National, Sébastien Chenu, juge qu'il est difficile qu'il y ait des Français dans les rues, sur les ronds-points après l'attaque de Strasbourg. Qu'en dites-vous, Jean-Marc Bailleul?
Bah, ça paraît assez évident. C'est pour ça que je profite de vous me donner la parole pour être complètement consterné par certaines pages Facebook de Gilets jaunes qui ont relais, ont crié au complot.
On y reviendra tout à l'heure avec Alexandra Hakoun, la flambée de complotisme sur les réseaux sociaux, incroyable.
Ouais, c'est quand même sidérant, quoi. C'est-à-dire que la menace terroriste, l'État, quels que soient les pouvoirs en place depuis 2015, on dit que la menace était permanente. Le ministre, dans ce que vous avez pris comme extrait, le rappelle. Donc effectivement, tout rassemblement de personnes, y compris ceux des Gilets jaunes ou des lycéens, sont des cibles potentielles faciles. Et c'est pas pour empêcher la revendication des Gilets jaunes. C'est une question de pragmatisme par rapport à ce qu'on sait que ce que recherchent les terroristes. Donc on en appelle, nous, à la responsabilité. On a des ouvriers de la sécurité qui sont les policiers.
Juste, ça peut durer combien de temps? Parce qu'il y a aussi une crise sociale en cours, des gens qui ont envie de manifester. Pendant combien de temps on va leur dire, oulala, attaque terroriste, vous pouvez pas manifester? Ça tient combien de temps, ça?
Bah, j'ai pas entendu que le ministre, le secrétaire d'État, M. Nunez, disait qu'il ne pouvait pas manifester. Il leur demandait simplement de respecter les principes de déclaration des manifestations. Parce qu'à partir du moment où c'est déclaré et que c'est sur un parcours qui est identifié, pour nous, c'est beaucoup plus simple pour quantifier les forces de l'ordre, savoir où les placer, etc. Donc l'un n'empêche pas l'autre.
Au moins déclaré. Sophie Parmentier.
Exactement.
Oui. Juste une petite précision. En effet, pour l'instant, l'appel à ne pas manifester concerne Strasbourg et sa région. Et pour l'instant, il n'est pas question d'interdire les manifestations dans toute la France.
Et toute dernière question, Jean-Marc Bailleul. Après, on entendra à nouveau des Strasbourgeois sur l'état de fatigue des policiers. Une couche de plus, un événement de plus.
Ah bah ça, c'est pas faute de l'avoir dit quand on l'a rencontré mardi de la semaine dernière. La fatigue, elle est réelle, elle est physique, elle est aussi psychologique, parce que forcément des maintiens de l'ordre à haut risque, c'est fatigant psychologiquement. Et rajouter le risque terroriste et le fait de porter l'uniforme, on sait tous, les militaires de Sentinelle l'ont vu hier à Strasbourg. Ils sont fait tirer dessus, forcément on va rajouter à cette fatigue. Donc il va falloir qu'à un moment donné aussi dans ce ministère, on s'organise en conséquence pour permettre à la fois de fonctionner et d'avoir un service public qui fonctionne et un service de sécurité, mais aussi permettre aux policiers de se reposer pour être dans toutes les dispositions psychologiques optimales.
Merci Jean-Marc Bailleul d'avoir répondu à nos questions sur France Inter après cette attaque terroriste donc à Strasbourg hier soir. La soirée vue par les Strasbourgeois, c'est partout dans la ville que cette attaque a eu un écho, dans la salle de basket, au Parlement européen, dans les rues et jusqu'au théâtre, le Théâtre National de Strasbourg. Tout d'un coup, les spectateurs ont vu le metteur en scène arriver sur scène.
Ils ont demandé de rester dans la salle.
On s'est demandé si c'était réel ou pas, parce qu'en fait, il est monté sur scène avant même le salut des comédiens, en disant, voilà, vous êtes confinés dans la salle, on ne peut plus sortir, et tous les établissements publics de Strasbourg, du centre-ville, sont fermés. Il y a eu une fusillade, quelque chose, et on ne peut pas sortir. Donc effectivement, on s'est demandé si c'était un coup en fait du metteur en scène ou si c'était réel, et c'est en allumant les portables, on a vu les messages en fait de nos familles, des enfants, des amis qui demandaient si tout allait bien puisque eux avaient vu les informations et nous on ne savait pas ce qui s'était passé.
Voilà pour ce témoignage, cette soirée vécue hier soir au théâtre de Strasbourg. L'attaque terroriste de Strasbourg et le bilan donné ce matin. 2 morts, une troisième personne en état de mort cérébrale, 12 blessés dont 6 en urgence absolue. Le cri à la Wakbar que des témoins ont entendu pousser au tireur. Tout ça, on y revient dans quelques toutes petites minutes. Je voudrais qu'on s'intéresse aussi à d'autres grands titres de l'actualité. On a parlé des Gilets jaunes. Il y a aussi le Brexit. Combien de temps va-t-elle résister, Theresa May? Combien de temps peut-elle rester Première ministre face à l'hostilité de plus en plus grande du Parlement à Londres? Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Vous êtes à Londres, Antoine, pour France Inter. L'information de la matinée, c'est que les députés conservateurs, la famille politique de Theresa May, ont lancé le processus pour la renverser. Vote de confiance ce soir, elle reste stoïque.
Absolument, elle l'a dit ce matin, la Première Ministre. Pas question d'abandonner, surtout si près du but, Theresa May la voit calme et ferme à la fois, campée sur le perron du 10 Downing Street, au milieu des décorations de Noël. Elle rappelle son engagement, les 40 années passées au sein du Parti conservateur, militante, élue, ministre, puis chef du gouvernement. Elle parle de ses efforts pour faire avancer les négociations autour du Brexit et elle présente ce vote de défiance comme un contretemps.
Je combattrai ce vote de toutes mes forces. Un changement de direction à la tête du Parti conservateur mettrait notre pays en danger. Le nouveau chef n'aurait pas le temps de renégocier l'accord sur la sortie de l'Union européenne et de faire passer les textes de loi au Parlement avant le 29 mars. Ça retarderait le Brexit, ça pourrait même l'arrêter. Moi, je suis prête à finir le travail.
Malgré la fronde, il est d'ailleurs tout à fait possible que Theresa May conserve son poste pour arriver à la faire partir. Les rebelles doivent convaincre au minimum 158 députés conservateurs de voter contre elle. Moins d'une centaine disent pour l'instant ouvertement qu'ils sont prêts à le faire. À l'inverse, les ministres affichent largement leur soutien car l'élection d'un successeur pourrait de fait prendre plusieurs semaines. Elle pourrait surtout faire exploser le parti.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres pour France Inter. L'actualité en bref, l'actualité légère, un tout petit peu. Tout de même, le prix Louis Deluc du cinéma attribué à Christophe Honoré pour son film Aimer, plaire et courir vite. Et puis l'actualité plus légère, c'est aussi le football. Après le PSG, Lyon va-t-il se qualifier en huitième des finales de la Ligue des Champions? Match en Ukraine contre le Shakhtar Donetsk ce soir. Un match nul suffit, mais en cas de défaite, c'est l'élimination. L'édition spéciale de France Inter consacrée à l'attaque terroriste de Strasbourg continue tout de suite.
France Inter. Édition spéciale.
Le terrorisme a de nouveau frappé notre territoire, dit le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz. C'était il y a une heure à peu près, conférence de presse, pour donner le tout dernier bilan de cette attaque. 2 morts, 1 personne en état de mort cérébrale en plus, 12 blessés, dont 6 en urgence absolue. Le tireur toujours en fuite, des témoins l'ont entendu crier à la Ouakbar. Strasbourg, au lendemain de l'attaque, reportage d'Angélique Bouin. Angélique est retournée ce matin dans ce quartier de la cathédrale et du marché de Noël, touché hier soir. Reportage.
Dans ce quartier de la cathédrale entouré d'eau, il y avait un filtrage quotidien, des fouilles de sacs chaque jour en raison des risques d'attentats, mais cela n'a donc pas suffi. Sylvie est enseignante, elle n'a pas eu peur de sortir ce matin, mais elle est bouleversée par cette attaque.
Il a 29 ans, il a l'âge de ma fille, je l'ai peut-être eu en classe et ça me fait juste un peu froid dans le dos, c'est tout. Je comprends pas comment on peut en arriver là.
Le fait qu'il soit pas arrêté, est-ce que vous avez l'impression que les gens autour de vous ont un peu peur ce matin ou est-ce
oui,
que là...
Oui. Je pense que les gens ont peur, c'est vrai qu'on se méfie un petit peu. Moi qui travaille avec des enfants, je me dis qu'on est fragile à ce moment-là, oui.
Dans son dos, un grand carton indique Strasbourg, capitale de Noël, un Noël magique. Laetitia, qui travaille dans le quartier où résonnent des carillons, affirme qu'elle ne s'y sentait pas en sécurité.
Nous, les Strasbourgeois, on vit toujours avec cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Il y a des barrages filtrants un peu partout. Donc ça rend un petit peu, enfin, pour ceux qui sont sensibles, le marché de Noël est un petit peu anxiogène. J'ai des enfants en bas âge, ben on évite d'y aller quand il y a plein de gens, plein de touristes, voyez ce genre de choses.
Des barrages filtrants qui montraient leurs limites, affirme de son côté Stéphane, qui s'attendait à une attaque.
On savait que ça allait arriver, donc c'est arrivé, voilà.
Et pourtant, c'est un quartier qui était très sécurisé.
Ouais, enfin sécurisé à 11h du matin, on est d'accord, hein. Ça sert à rien, on voit très bien qui tient les checkpoints et on voit très bien comment ils contrôlent les sacs. Il y a tout qui rentre, il y a tout qui sort.
Stéphane qui estime qu'il ne peut rien lui arriver avec la police déployée partout ce matin. On a vu des camions de livraison fouillés par des hommes en armes. Amel, en route elle aussi pour son travail, face à ce déploiement policier, est un peu inquiète mais résignée.
Ça fait des années que Strasbourg est menacée. De toute façon, c'est pour ça qu'on a tout le dispositif qui est en place depuis les attentats à Paris. Donc, on savait que ça finirait par arriver. C'est la capitale de l'Europe. Donc, et
vous avez été travailler malgré tout ce matin?
Pas le choix. Il faut bien. La vie, elle continue. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer. On ne peut pas bloquer toute la vie. Ce serait les faire gagner d'un côté.
Strasbourg, Angélique Bouin, France Inter.
Voilà pour la parole des Strasbourgeois au lendemain de cette attaque. Corinne Audouin, Sophie Parmentier, service police-justice de France Inter, toujours dans ce studio pour faire le point sur l'enquête, sur les dernières informations police-justice. Et ce que nous a dit il y a une heure Corinne Rémy Heitz, le procureur de la République de Paris, les 3-4 informations importantes qu'il a données en plus.
Alors des témoins ont entendu l'assaillant crier à la Ouakbar. C'est la première fois qu'on a cette information. Et au vu donc à la fois du profil de l'homme, hein, âgé de 29 ans, dont on connaît le prénom pour l'instant, Shérif C, du mode opératoire, donc un assaillant seul qui tire à l'arme, alors on ne sait pas encore si c'est une arme lourde, en tout cas à l'arme à feu, également avec un couteau sur des passants, également sur des militaires. Au vu de tout cela, c'est donc une enquête préliminaire pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et tentative d'assassinat. l'assassinat qui a donc été ouverte. On est donc bien dans des faits de terrorisme. On sait que depuis ce matin, il y avait une grande prudence autour des motivations du tireur, avec cette information du mot à la Ouagbar. Voilà, c'est une information nouvelle.
Et le procureur lui-même qui parle d'attaque terroriste.
Tout à fait. Et comment on a cette information? Il semble que le témoignage du chauffeur de taxi ait été absolument essentiel. On rappelle, l'assaillant passe à l'acte à peu près avant 20h dans le centre de Strasbourg, dans le centre historique.
Juste avant la fermeture
du
marché de Noël.
Il marche à pied, il tire sur des passants, il tire sur des militaires de l'opération Sentinelle. Ensuite, il braque un taxi, il monte dans ce taxi et au cours du voyage qui a duré une dizaine de minutes, il parle à ce chauffeur de taxi. Le chauffeur lui demande pourquoi il est blessé, parce que l'homme est blessé. Et l'homme lui dit « Je suis passé à l'acte », il lui raconte ce qu'il a fait. Il dit avoir tué 10 personnes. Évidemment, il ne sait pas combien de victimes il a fait. Donc, il revendique en quelque sorte ce qu'il a fait et il donnerait des éléments pour lesquels il serait passé à l'acte. Donc c'est là qu'on imagine qu'il y a des éléments liés à une radicalisation terroriste. Et surtout, il dit à cet homme, à ce chauffeur de taxi, une grenade a été retrouvée chez moi ce matin. Ça veut dire que Chérif C savait qu'il avait été perquisitionné le matin même, que la police le recherchait. Il faut savoir qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt. La police était venue l'arrêter à son domicile en lien avec une affaire de braquage et de tentative d'homicide qui s'est passée cet été à Strasbourg. Il a donc su qu'il était recherché. C'est peut-être potentiellement l'un des motifs du passage à l'acte. Voilà en quelques mots ce qu'on sait de nouveau, et également, pour être tout à fait complète, 4 personnes actuellement en garde à vue, des proches du terroriste donc Chérif C, qui est donc également toujours en fuite. Le procureur a bien précisé que les investigations sont en cours.
Traqué, blessé, est-il dans son quartier d'origine du Neudorf? Est-il déjà en Allemagne? Est-il ailleurs à Strasbourg ou en France? Une traque comme ça, combien de temps ça peut durer, Sophie, sachant que l'homme est blessé, hein, Corinne le disait.
C'est impossible de savoir. Ce qui est sûr, c'est que Corinne Audouin vient de dire qu'il y avait 4 personnes en garde à vue. Il y a l'entourage, en fait, du tireur qui est en ce moment interrogé et qui peut fournir des éléments extrêmement précieux, peut-être, aux enquêteurs qui sont en train de les interroger. Parce que, donc, il y a l'enquête dont parlait Corinne hier avec cette perquisition qui n'a pas abouti. Et là, il y a eu des interpellations. Mais il y a aussi les proches. Et ça, c'est le cas dans toutes les enquêtes qui sont allées d'eux-mêmes à la police. D'ailleurs, un des frères de Chérif C s'est rendu lui-même à la police hier. Et donc, en ce moment, ils sont peut-être en train de fournir des éléments précieux aux enquêteurs pour retrouver ce tireur de Strasbourg qui est activement recherché. Alors, il y a des forces qui ont été déployées en nombre, hein, plusieurs centaines de policiers et gendarmes, environ 400 policiers et 200 gendarmes. Il y a des hommes de la BRI locale, il y a des hommes du RAID de Strasbourg, il y a aussi le RAID de Nancy qui est arrivé en renfort. C'est une nouvelle antenne d'ailleurs du RAID qui a été créée après les attentats de 2015. Il y a aussi le GIGN et dans le cadre du schéma national d'intervention. Vous savez qu'ils ont appris à travailler ensemble et donc ils sont tous là, mobilisés, prêts à intervenir. Mais la question qui se pose, évidemment, c'est de savoir si le tireur se trouve toujours à Strasbourg ou s'il a fui. Vous savez que très vite, en fait, le plan Vigipirate a été renforcé. Il est passé en urgence attentat, c'est-à-dire qu'il y a des axes routiers qui ont été fermés. On a déployé beaucoup plus de moyens. Évidemment, la frontière allemande est très proche et le risque, c'est qu'il ait pu partir déjà en Allemagne. Et d'ailleurs, Laurent Nunez, dans ce studio ce matin, disait que c'était pas impossible.
Possible.
Donc peut-être qu'il est déjà parti, mais peut-être qu'il est toujours aussi dans son quartier. Vous savez que des traques, en fait, peuvent durer longtemps avec des hommes en cavale dans leur quartier. Vous vous souvenez évidemment de Salah Abdeslam. Après le 13 novembre 2015, il s'enfuit à Bruxelles. On le cherche pendant des mois et en fait, pendant 4 mois, eh bien en fait, il reste dans son quartier à Molenbeek.
Les questions que vous ouvrez, Sophie, on les pose dans un instant à Arnaud Dangean, qui est notre prochain invité. D'abord, nous allons à l'Élysée. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Cyril Graziani, nous sommes mercredi, jour de Conseil des ministres, mais évidemment, une réunion supplémentaire s'est imposée à l'agenda.
Oui, la menace terroriste est toujours au cœur de la vie de notre nation, a rappelé en tout début de Conseil Emmanuel Macron, avant de présider un Conseil de défense. Chose rare, le Conseil de défense, normalement, est traditionnellement prévu les mercredis à 9h avant le Conseil des ministres. Eh bien, ce matin, il n'était pas à l'agenda. Triste coïncidence, selon l'Élysée, l'actualité de la semaine en matière de sécurité ne nécessitait pas de réunir ce Conseil de défense. C'est chose faite, le Conseil de défense est donc toujours en cours, car ils attendaient que Christophe Castaner revienne d'Alsace. Et il y a quelques instants, Benjamin Griveaux, le porte-parole, a rappelé d'autres mots du président de la République.
Le président de la République a ensuite dit, au-delà de ces sujets qui ont occupé le début de ce Conseil, que dans les moments que nous vivions, pas particulièrement depuis hier soir, mais depuis désormais de nombreuses semaines, le sens de l'intérêt général devrait amener chaque responsable politique au calme et à la retenue.
Message adressé aux élus qui quasi immédiatement ont relancé le débat sur les fichiers S, mais aussi peut-être aux thèses complotistes qui ont fourmillé depuis hier soir sur les réseaux sociaux.
On en parle dans quelques minutes de ces thèses complotistes. Merci Cyril Graziani en direct de l'Élysée. Entendons les habitants de Strasbourg avant de les écouter longuement demain, puisque ce 13-14 sera en direct de Strasbourg demain. Voici Jean Bernard, il habite la ville, il est au micro de Mathilde Dehimi.
Sous le choc, quoi. Enfin, savoir que, bon, c'est hélas, c'est devenu un peu trop fréquent quand ça vous touche tout près, quoi. Donc, c'est encore plus fort, quoi. C'est plus prégnant, quoi. C'est dommage à dire, mais c'était censé arriver tôt ou tard.
Il y a de la colère en plus. Hein.
Beaucoup aussi. J'habite, rue des Charpentiers, donc c'est juste à côté, quoi. On était chez nous, donc on n'était pas dehors, donc. Donc il n'y avait pas de souci à ce niveau-là, quoi. Mais ça aurait pu être le cas. On se dit pas, ça peut arriver tous les jours, on continue à se promener, on sort, je ne vais pas rester confiné chez moi, quoi. Mais et on n'est pas à l'abri d'un fou. Je vois beaucoup de gens déambuler dans la rue d'un marché à l'autre. Et là, ce matin, effectivement, il n'y avait personne, quoi.
Alors à Strasbourg, il y a aussi évidemment le Parlement européen. Bonjour Anya Vogel.
Bonjour.
Les députés européens confinés une longue partie de la soirée, quasiment de la nuit même. J'imagine que l'ambiance est particulière puisqu'il y a une session en ce moment du Parlement européen, Anya.
Oui, tout à fait, qui a repris ce matin. Donc l'inquiétude, vous l'imaginez, l'émotion sont perceptibles ici chez les eurodéputés. Les traits sont tirés, les mines graves et les rangs étaient encore un peu clairsemés après une nuit très courte, vous l'avez dit. Malgré cela, le Parlement européen a tenu à reprendre le cours de ses travaux comme prévu. La session s'est ouverte comme elle s'était achevée la nuit dernière par une déclaration de son président Antonio Tajani qui, tout en accueillant ce matin le président chypriote pour un débat sur l'avenir de l'Union, a parlé d'un jour difficile pour chacun en Europe, d'une attaque criminelle contre la paix, contre la démocratie, contre notre modèle de vie. Mais face à cela, il faut aller de l'avant et ne pas changer nos habitudes, a souligné le président. Dans l'hémicycle comme dans les couloirs, on échange les vécus, les uns dans l'enceinte du Parlement où ils sont restés confinés jusqu'à 3h du matin, les autres étaient dans des restaurants, des hôtels en ville, les récits de l'attaque parfois, tous inquiets de savoir que l'auteur n'a toujours pas été interpellé, impatient aussi de quitter Strasbourg et cette atmosphère qu'il qualifie de lourde. En attendant, ils poursuivent les travaux. Il y a du pain sur la planche avant les européennes. Pour la première fois, il y a même une séance de vote à 17h et tout cela dans un contexte tout de même plus léger pour ce qui est des mesures de sécurité. Il faut bien sûr, toujours montrer patte blanche pour accéder au bâtiment, mais les lourds portails coulissants à l'entrée du Parlement européen sont à nouveau ouverts.
Merci Anya Vogel en direct de Strasbourg. Eh bien, nous sommes avec un député européen au bout du fil, qui plus est spécialiste des questions de sécurité, Arnaud Danjean. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Un mot d'abord de la soirée telle que vous l'avez vécue au Parlement européen.
Je ne l'ai pas vécu au Parlement européen, j'étais au centre de Strasbourg avec des collègues. J'ai quitté le Parlement européen juste avant que le confinement ne soit déclaré, donc vers 20h. Et j'étais près du centre de Strasbourg, où j'ai été là de nouveau confiné dans un hôtel, jusqu'à ce que je puisse rejoindre mon autre hôtel qui est à la périphérie de Strasbourg vers minuit. Voilà, j'ai vécu ça comme tous les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois, et comme tous mes collègues qui étaient à Strasbourg hier.
Et quelle ambiance ce matin au Parlement européen ?
Oh, une ambiance grave, parce qu'évidemment tout le monde est choqué. Je me permets juste de rappeler que pour un certain nombre de collègues, nous avions déjà vécu ça à Bruxelles, hein, en mars 2016, les attentats du 22 mars à Bruxelles. C'était produit d'ailleurs très près du Parlement, hein, un d'entre eux s'était produit dans une station de métro tout près du Parlement. Donc voilà, c'est une expérience que beaucoup de collègues et de collaborateurs ont déjà vécue, cette forme de traumatisme lié à un événement tragique qui survient très près du lieu où vous êtes. Donc oui, une ambiance assez grave, j'allais dire d'autant plus grave que nous sommes en plein examen de textes liés justement à la menace terroriste. Nous allons voter aujourd'hui même un texte sur la lutte antiterroriste. Donc vous voyez, il y a effectivement une actualité qui nous rattrape et donc ça pèse effectivement sur l'ambiance. Il y a aussi beaucoup de compassion par rapport aux victimes, évidemment, puisque pour l'instant, c'est la seule certitude que nous ayons, c'est les victimes. Oui. Pour le reste, le profil de l'assassin, ses motivations, et puis surtout sa cavale, tout ça reste encore assez flou pour nous.
Arnaud Danjean, les questions à l'expert en sécurité que vous êtes. D'abord, la traque, comment peut s'organiser la traque d'un tireur comme ça dans une ville comme Strasbourg, sachant que effectivement, au moment où on se parle, on n'a pas d'idée précise de l'endroit où il est.
Oui, donc vous l'avez bien résumé. Moi, j'ai pas d'idée précise de l'endroit où il est. Je ne suis pas policier, donc j'ai jamais traqué quelqu'un de ma vie, en tout cas pas ce genre de traque. Donc je laisserai les professionnels s'exprimer là-dessus. Ce qui me dérange un peu dans cette affaire, c'est qu'il n'y ait pas pu avoir de neutralisation dans les minutes qu'ont suivi la commission des faits. Et ça, c'est quelque chose qui est assez embêtant, parce qu'on est dans un lieu qui est supposé être très sécurisé, le marché de Noël de Strasbourg, dont on sait que c'est une cible potentielle, un lieu qui est assez dense, un lieu urbain, et un lieu donc où on a une présence de forces de sécurité et de personnel théoriquement armé, que ce soit des gens, des militaires de Sentinelle ou d'autres. On a une présence assez forte, et ce qui me gêne, c'est qu'on n'ait pas pu neutraliser l'individu sur place. Et ça, c'est assez ennuyeux, parce que dès lors qu'il y a une cavale qui s'organise, ensuite, il y a beaucoup d'aléas et c'est pas rassurant.
État de la menace terroriste, quelles informations avez-vous, Arnaud Dangean, sur les derniers jours, les dernières semaines ?
Alors moi, j'ai pas d'informations particulières, parce que je n'appartiens pas au service de renseignement ou de police. En revanche, ce que je sais et ce que j'ai encore plaidé hier dans l'hémicycle du Parlement européen, avant ces attentats, c'est que nous devons rester mobilisés et nous devons considérer que la menace n'a pas faibli. Parce que même sans avoir d'indications particulières sur tel ou tel individu, il est évident que nous avons en face de nous des groupes djihadistes qui sont extrêmement déterminés, et c'est pas parce qu'ils subissent des pertes territoriales au Levant ou ailleurs qu'ils sont incapables de se réorganiser et qui vont abandonner leur objectif et leur idéologie. Or, moi, je n'ai pas entendu ces derniers mois de chefs djihadistes, que ce soit au Mali, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, voire même des prêcheurs en France, je n'ai entendu aucun de ces leaders djihadistes dire qu'ils allaient arrêter la lutte et qu'ils allaient arrêter de frapper la France. Donc, en partant de ce simple raisonnement et de ce contexte international, plus du contexte national où on sait que nous avons à peu près 20 000 personnes qui sont radicalisées aujourd'hui et fichées comme telles, le degré de menace reste mécanique. Très élevé.
Et une tentative d'arrestation peut déclencher un passage à l'acte, puisqu'il y a eu une opération de police contre lui hier ?
Absolument, ça, l'enquête le déterminera, mais effectivement, c'est là aussi, en termes analytiques, c'est quelque chose que j'aurais tendance à privilégier, un peu à l'instar de ce qui s'était fait à Bruxelles lors des fameux attentats de mars 2016, puisque on sait que le commando qui est passé à l'attaque à Bruxelles dans l'aéroport et dans la station de métro, ce sont des gens qui étaient acculés, qui savaient qu'ils étaient recherchés activement et qui n'avaient plus de planque, qui savaient que tout était dévoilé. Et donc, c'était une action qui n'avait pas forcément été planifié en tant que tel pour intervenir à ce moment-là et dans ces circonstances-là, mais c'est compte tenu de la pression policière qui s'était exercée sur eux, ces gens se sont lancés dans cette attaque. On peut penser que cette personne qui visiblement allait être interpellée, peut-être pour des faits de droit commun ou qui allait subir une perquisition, effectivement, est passée à l'acte sans qu'elle l'ait forcément prévu selon ces modalités-là.
Arnaud Dangean, le député européen spécialiste des questions de sécurité, entretien enregistré en toute fin de matinée au Parlement européen de Strasbourg. Nous parlions tout à l'heure des commentaires, notamment de Laurent Wauquiez, qui met en cause la surveillance du tireur, et également de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan sur ce thème-là. Réaction du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux il y a quelques minutes. Vous avez des petits responsables politiques et des grands hommes d'État. Il y a aussi les réseaux sociaux et un délire complotiste qui s'est déchaîné hier. Bonjour Alexandra Akoun.
Bonjour.
Le délire, au fond, ce serait l'attentat à Strasbourg s'est fait exprès pour écraser les gilets jaunes.
C'est un peu la tendance de ce qu'on peut lire depuis hier soir sur Twitter. Particulièrement partagé, c'est vrai, c'est ces théories du complot, pas que, mais particulièrement chez les gilets jaunes. Sur Twitter, souvent avec les mots cousus de fil blanc ou comme par hasard, je vous en lis certains, comme par hasard, un fichier se balade dans Strasbourg, voilà comment stopper les gilets jaunes. Comme par hasard, monsieur le président, aurait-il tellement peur pour sa tête qu'il voudrait nous faire croire à un attentat d'un certain mec radicalisé? D'autres parlent d'un attentat monté de toutes pièces par les services secrets. Sur la page Facebook dédiée à la 5e mobilisation nationale des Gilets jaunes, je m'en doutais, il devait trouver quelque chose pour refuser samedi l'acte 5, ou encore sur celle de Flyrider, pseudo de Maxime Nicole, dans les Côtes d'Armor, à la tête de l'un des groupes de Gilets jaunes les plus importants de Facebook, plus de 130 000 inscrits. Peu avant 21h, hier soir, il a posté ceci. Écoutez attentivement ses premiers mots.
Pour l'instant, personne ne sait rien. Et si c'était un attentat, dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, il attend pas qu'il y ait trois personnes dans une rue le soir à 20h. Il va en plein milieu des Champs-Élysées quand il y a des millions de personnes et il se fait exploser. Ça, voilà. C'est un vrai attentat.
Voilà, on ne sait rien, mais on instille le doute, hein, tout de même. Des preuves, certains ont cru les trouver dans l'heure d'un tweet de la préfecture de région Grand Est hier, qui indiquait 11h du matin et quelques, comme si tout cela avait été préparé à l'avance, bien en amont. En réalité, une explication beaucoup plus simple. Guillaume Dodin, du service fact-checking de l'AFP, invité ce matin sur notre antenne.
C'est juste un mécanisme informatique sur Twitter. C'est que quand son compte Twitter n'est pas réglé, quand on n'a pas fait l'effort de le régler, il est réglé à l'heure de Californie. C'est là où est basé Twitter, il y a 9 heures de moins, et donc ces tweets, au lieu d'annoncer 20h17, je crois que c'est ça de mémoire, ils annonçaient 11h17.
À noter tout de même que parmi les commentaires, les nombreux commentaires, certains gilets jaunes, beaucoup même, appellent à l'inverse au calme, à la mesure. Ils sont peu écoutés, c'est vrai, mais ils tentent de ramener le calme afin de ne pas complètement décrédibiliser leur mouvement.
Merci Alexandra Akoun. Et de fait, Laurent Nunez, ce matin secrétaire d'État à l'Intérieur, appelait les gilets jaunes à minima à déclarer les manifestations dans les jours à venir. Strasbourg, nous y serons demain, entre 13 et 14 heures pour ce journal. Nous serons au milieu des Strasbourgeois pour prendre le pouls de cette ville après l'attaque. Cette ville qui va reprendre une vie normale, c'est en tout cas ce que souhaite le maire Roland Ries, qui était ce matin l'invité de France Inter.
Le deuil d'aujourd'hui doit aboutir à faire en sorte que nous concentrions sur ce qui s'est passé. Et demain, moi je souhaite que la vie reprenne son cours. Parce qu'il ne faut pas, me semble-t-il, céder au chantage de terroristes, quelles que soient les motivations qui les conduisent, ou d'extrémistes, de fanatiques. Nous avons des valeurs, nous avons un mode de vie, nous devons le défendre contre ceux qui, justement, veulent nous déstabiliser. Il ne s'agit pas de céder à ceux qui voudraient remettre en cause une tradition plus que séculaire, puisque ça fait 450 ans qu'il existe à peu près ce marché, nous ne devons pas leur donner raison. Donc il faut continuer, il faut que demain les spectacles et tout le reste se remettent en place. Aujourd'hui, nous avons interrompu ces spectacles et en signe de deuil.
Rendez-vous donc demain à 13h à Strasbourg avec grand plaisir. Strasbourg touchée par cette attaque terroriste, disait il y a un peu plus d'une heure le procureur de la République de Paris. Dernier bilan, 2 morts, 1 personne en état de mort cérébrale, 12 blessés dont 6 en urgence absolue et le tireur toujours en fuite, tireur qui serait blessé. Les autres titres de l'actualité à présent et jusqu'à 14h à propos des gilets jaunes, l'un des enjeux des jours à venir, c'est aussi la prime de Noël que le président de la République souhaite voir versée aux salariés, mais c'est aux entreprises de décider. Est-ce qu'elles jouent le jeu? Coup de pression, elles sont reçues. Aujourd'hui à l'Élysée, certaines ont déjà annoncé qu'elles verseraient la prime, Delphine Simon.
Vu ses bons résultats de l'année, Total propose une prime de 1500 euros, 3 fois plus élevée que l'an passé. Elle va bénéficier à 31 000 salariés en France, franchisés compris, un coût total d'environ 30 millions d'euros. Plusieurs grandes entreprises ont déjà fait savoir qu'elles offriront elles aussi une prime de 1000 euros en fin d'année. Dans les télécoms, les groupes Orange et Altice, dans le luxe, LVMH et Kering, ou encore le groupe publicitaire Publicis. Ce sera plus difficile en revanche dans les PME, voire chez les artisans. Comme le rappelle le président de l'UDP, Alain Griset, cette prime n'a rien d'automatique.
Quand ça sera possible, nos collègues le feront, parce qu'ils sont sensibles à la situation des salariés, mais naturellement que beaucoup d'entre eux ne pourront pas le faire. Et je précise que beaucoup d'entre eux sont eux-mêmes en difficulté. Du fait d'abord d'une situation économique qui est loin d'être brillante pour tout le monde, hein. Plus de la moitié des entreprises artisanales gagnent moins de 1500 euros par mois de chef d'entreprise. Donc, quand vous êtes dans ces situations, donner une prime, c'est quelque chose qui est clairement impossible.
Et la crise des gilets jaunes n'a rien arrangé. Comme le MEDEF et la CPM, l'UDP réclament en fin d'année des annulations de cotisations sociales pour les entreprises les plus en difficulté.
Le Brexit, combien de temps Theresa May peut-elle tenir à la tête du gouvernement britannique? Elle fait face à un vote de défiance. Ce sera ce soir une femme toujours à la tête du gouvernement britannique et une femme à la tête d'Air France, une nouvelle directrice générale depuis ce matin. Anne Rigail doit être nommée à la tête de la compagnie aérienne française. En France, toujours quelques centaines d'avocats mobilisés ce matin, place du Châtelet à Paris, contre la réforme de la justice votée la nuit dernière à l'Assemblée nationale. Sur place, Laurélie Carive.
Toute la justice meurt,
Une foule de robes noires a envahi la place du Châtelet. Le projet de loi justice voté cette nuit, une réforme en catimini, s'insurge un pénaliste. Un mot revient en boucle, déshumanisation. Pascal Talman est bâtonnier du Val-de-Marne en dématérialisant certaines procédures. Certes, on gagne du temps, dit-elle, mais on éloigne aussi le citoyen de la justice.
Au jour d'aujourd'hui, vous avez un problème, par exemple locatif, par exemple de dette vis-à-vis d'un organisme de crédit. Vous pouvez aller avec votre petit sac plastique voir le juge d'instance qui va vous aider à régler les difficultés. Demain, pour pouvoir faire quelque chose, il faudra passer par des intermédiaires par Internet avant d'avoir une chance, un jour peut-être, de voir un juge. Autant dire que les trois quarts des gens n'accéderont pas à cette justice et seront privés de justice.
Autre point qui cristallise les critiques, pour revaloriser une pension alimentaire, il ne faudra plus passer par un juge, mais s'adresser directement au directeur de la CAF, une procédure biaisée et expéditive, dit-on ici. Quant à la question des moyens de la justice, la ministre Nicole Belloubet a beau avoir annoncé une rallonge d'1,6 milliard sur 5 ans, c'est un leurre, estime Ariana Bobetic, avocate en Seine-Saint-Denis.
La majorité de ce budget va être allouée à la création de places de prison, à la construction de prisons. Ça n'a rien à voir avec la justice du quotidien. Au contraire, elle va être encore plus perdante.
Car aujourd'hui, c'est avant tout de greffiers et de magistrats dont la justice a besoin, soupire-t-elle.
Voilà pour ce reportage de Laurélie qui arrive à Paris. Le football, la Ligue des Champions, 21h ce soir. Lyon joue contre le Shakhtar Donetsk en Ukraine. Une victoire et même un match nul. Et c'est la qualification pour les huitièmes de finale. En handball, les Bleus ES jouent ce soir face à la Serbie à Nantes pour une place en demi-finale. Le cinéma, du côté des sorties cinéma, il y a la Palme d'Or, une affaire de famille sur les écrans cette semaine. Mais il y a aussi un des prix les plus prestigieux du cinéma qui a été décerné en fin de matinée. C'est le prix Louis Deluc. Il revient à Christophe Honoré, Corinne Pélissier.
Plaire, aimer et courir vite, grand oublié du Festival de Cannes qui revient sur les années sida, qui semblent presque appartenir à un passé lointain mais dont nous subissons toujours aujourd'hui l'héritage. C'est ce qu'a rappelé Christophe Honoré en recevant ce prix, très important pour lui, qui revêt en tout cas une valeur particulière. Plaire, aimer et courir vite est son 12e film, sans doute aussi le plus personnel, avec des personnages et un sujet qui le touche, dont il s'est longtemps empêché de parler. Ce sont les manifestations contre le mariage pour tous et le déchaînement de haine homophobe qu'elles ont suscité, qui l'ont décidé à se pencher sur le sujet, convoquer ses souvenirs et la mémoire de grands artistes ou écrivains disparus trop tôt, comme Guibert ou Coltès. Le film raconte aussi une très belle histoire d'amour avec des comédiens très convaincants, Vincent Lacoste, Pierre de la Longchamp. Une belle récompense pour cet oublié des palmarès. C'est un peu la carrière de Christophe Honoré que le prix Deluc vient saluer aussi aujourd'hui.
Christophe Honoré, prix Louis Deluc. C'est une des informations de la matinée, mais évidemment, le grand titre ce matin, c'est cette attaque hier soir à Strasbourg, aux alentours de 20h, marché de Noël. Corinne Audouin, Sophie Parmentier, on refait un dernier point avec vous à propos de cette attaque. Corinne, c'était bien une attaque terroriste.
Le terrorisme a une nouvelle fois frappé notre territoire, c'est ce qu'a dit ce matin Rémi Hetz, le procureur de Paris, qui parlait depuis Strasbourg. Il se base notamment sur des témoins qui ont entendu l'assaillant crier « Allahu Akbar ». Le bilan, pour l'instant, est de 2 morts et d'une personne en état de mort cérébrale, 12 blessés, dont 6 en urgence absolue. L'auteur, 29 ans, shérif C, 27 condamnations à son casier pour des vols et des violences, radicalisé en détention, incarcéré plusieurs fois en France et en Allemagne. Il est toujours en fuite. Les investigations se poursuivent et 4 personnes, des proches du tireur, sont actuellement en garde à vue.
Et c'est un homme blessé qui est en fuite, Sophie Parmentier.
Oui, blessé par des militaires de Sentinelle qu'il a croisé sur son périple meurtrier, mais il a réussi à prendre la fuite. Actuellement, il y a des centaines de policiers et de gendarmes qui le traquent, mais on ne sait pas s'il a réussi à quitter Strasbourg ou pas. Laurent Nunez, ce matin dans ce studio, n'a pas exclu qu'il ait pu passer la frontière allemande. On sait que ces traques peuvent être longues, difficiles. On se souvient par exemple de la traque de Mohamed Merah en 2012, même quand il avait été cerné par les hommes du raid, souvenez-vous, ça avait duré une trentaine d'heures dans son appartement. Là, on sait que cet homme n'était pas dans son appartement hier quand les gendarmes, justement, ont tenté de l'interpeller dans le cadre d'une autre enquête. On sait que là, il s'est enfui hier soir. On ne sait pas s'il a pu se retrancher quelque part dans une planque. On se souvient aussi que Salah Abdeslam, par exemple, était resté 4 mois en cavale à Bruxelles sans qu'on ne sache qu'il était encore à Molenbeek.
Et Laetitia Gaillet pour d'autres informations dans 2 minutes. Le flash de 14h.